en direct de Ouagadougou, c'est à 15h10 TU.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 9h40 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la suite d'Appels sur l'actualité, la libre antenne. Vous disposez maintenant de 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix, pour lancer le débat sur tous les sujets qui vous interpellent dans l'actualité française, internationale, africaine. 33 9 693 693 70, je vous rappelle le principe, c'est très simple, vous souhaitez vous exprimer, eh bien vous nous appelez, nous notons votre prénom, votre numéro de téléphone, et ensuite c'est RFI qui vous contacte dans les minutes qui suivent. Des réactions concernant les négociations intermaliennes, puisque dimanche, un projet d'accord de paix et de réconciliation a été paraphé par les autorités de Bamako et la moitié des groupes armés du Nord. Bonjour Ousmane. Allô Ousmane.
Ah. Allô, je vous entends.
Et nous aussi, on vous entend. Quand la technique fonctionne, on est ravis, évidemment. Alors, il y a ce projet d'accord qui est en passe d'être signé. Il y a un hic pour l'instant, puisque la coordination des mouvements de la Zawad, qui regroupe notamment le MNLA, le MMA, a demandé un délai de quelques jours, voire même de plusieurs semaines, pour expliquer le contenu de ce document aux populations du Nord. Pour vous, c'est un bon accord? Vous êtes optimiste? Vous trouvez que c'est un bon compromis ou pas, ce qui a été décidé à Alger?
Alors, on va dire que c'est un compromis. Bon accord, mauvais accord, il est difficile. Un accord est déjà un compromis. Il est dommage qu'on arrive déjà à un compromis pour pouvoir vivre ensemble, d'une part. Donc, il va falloir qu'on serre la ceinture de part et d'autre pour pouvoir respecter les termes de cet accord. Si jamais l'autre partie éventuellement arrive à signer, si nos frères de l'autre côté signe cet accord-là.
Mais pourquoi vous êtes optimiste, Ousmane, puisque cet accord ne parle ni d'autonomie de la Zawad, ni de fédéralisme, et encore moins d'indépendance, alors qu'on sait que voilà une partie de la population du nord du Mali réclame notamment l'indépendance, ou en tout cas plus d'autonomie.
Alors, d'une part, je me pose la question, quelle est la base sur laquelle on a pu consulter les populations du Nord, d'une part. Il se pose peut-être un problème de représentativité. Moi, j'aimerais vraiment comprendre comment est-ce que les populations du Nord, entre guillemets, sont arrivées à s'exprimer et dire que cet accord-là est bon ou mauvais. Donc, je suis un peu curieux de savoir quelle technique a été utilisée pour consulter les, entre guillemets, populations du Nord.
Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mais comment les populations du Sud sont-elles consultées? Vous pensez que les autorités devraient, elles aussi, consulter la population, peut-être en organisant un référendum?
Alors, un référendum serait peut-être, à mon avis, avec tous les problèmes que le pays connaît, relativement lourd, à organiser, d'une part. D'autre part, si on prend la population du Mali, en général, si on organise un référendum, je pense qu'il n'y aurait même pas question d'accord.
On va voir ce qu'en pense Moussa, qui nous appelle également du Mali. Il est à Kaï. Bonjour Moussa.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, est-ce que ce projet d'accord de paix et de réconciliation est un bon compromis ou pas pour vous?
Oui, pour moi, c'est un bon compromis, surtout par rapport au caractère de régionalisation. Je pense que la régionalisation qui est prévue dans cet accord s'applique à l'ensemble des régions du Mali. Et cette régionalisation permet aux populations locales de choisir leurs dirigeants, qui vont désormais s'occuper de tous leurs problèmes. Problèmes d'ordre de développement, les problèmes de culture, d'identité, tout cela sera géré par les représentants de la population elle-même.
Ouais, vous faites référence au fait que l'accord prévoit la création d'assemblées générales qui seront élues au suffrage universel direct. J'aimerais avoir votre point de vue à tous les deux, Ousmane et Moussa, sur le fait que cet accord présente l'Azawad comme une réalité humaine et socioculturelle. Vous en pensez quoi, Moussa Akaï?
Oui, bon, l'Azawad est une réalité qui existe bel et bien dans le nord du Mali, mais ce n'est même pas au nord du Mali seulement. Dans d'autres régions du Mali, nous avons des appellations comme le Mandé, comme le Belédougou, comme le Kénédougou. Donc, c'est des appellations qui existent un peu partout sur l'ensemble du territoire malien.
Donc, ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas qu'on désigne une partie du pays comme étant l'Azawad. Ousmane à Bamako, vous partagez le point de vue de Moussa?
Moi, quelque part, ça me choque un peu, puisque l'Azawad, comme entité historique, on ne l'a jamais connu. Il n'y a jamais eu de royaume de l'Azawad, il n'y a jamais eu d'empire de l'Azawad. On a connu les empires, on a connu les groupements, on a connu le Mandé, on a connu le Belédougou, on a connu les empires Songhaï, on a connu les Askia de Gao. On n'a jamais connu aucune entité, ni culturelle, ni sociale, ne s'est appelée sur le territoire malien Azawad.
Donc pour vous, l'Azawad ne représente rien et n'incarne rien. On aura l'occasion, évidemment, dans cette émission, de revenir sur ce projet d'accord de paix. On verra quelle sera la décision finale de la coordination des mouvements de l'Azawad, qui s'accorde donc un petit moment pour consulter la population et expliquer le contenu de ce texte et de cet accord trouvé à Alger dimanche dernier. Il est 8h46 à Bamako, 33 9 693 693 70, c'est la libre antenne. On va s'intéresser maintenant à cette affaire des sodas périmés. Vous en avez certainement entendu parler sur notre antenne, affaire qui a un peu défrayé la chronique tout de même au Burkina Faso. 1300 tonnes de sodas périmés ont été saisies dans la banlieue de Ouagadougou, des boissons gazeuses, des sodas qui provenaient de Tunisie, qui étaient destinées à être vendues sur le marché burkinabé après que la date de péremption ait été falsifiée. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Je me permets de donner votre nom de famille, puisque vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Vous êtes Gilbert Yinsonda. Vous nous avez envoyé un courrier électronique en nous disant « Je veux à tout prix m'exprimer sur ce scandale ». Vous n'êtes pas surpris déjà par cette affaire?
Non, pas du tout. Parce que depuis plus d'une décennie que nous sommes dans le domaine du consumérisme, nous savons que de telles pratiques malsaines existent dans notre pays. Ce n'est que tout récemment que la police a quand même médiatisé cette saisie de boissons périmées et nous ne sommes pas du tout surpris de cela.
Alors que faire? Que pouvez-vous faire, vous, en tant que président de la Ligue des consommateurs?
Bon, alors, ce que la Ligue des consommateurs propose aux autorités de la transition, c'est la mise en application de ce projet relatif à une commission nationale de lutte contre les non-conformités. Le col projet avait été conçu par la Ligue des consommateurs en collaboration avec le Laboratoire national de santé publique, le ministère du Commerce, le ministère de la Santé et la Direction générale de la douane.
Attendez, Gilbert, que fera cette commission nationale? Quel sera son rôle?
Le rôle de cette commission nationale consistera à veiller, faire en sorte que le Laboratoire national de santé publique puisse à chaque fois effectuer des contrôles de qualité sur les produits et qui entrent, aussi bien importés que les produits produits à l'intérieur du pays, et que ce laboratoire ait le pouvoir de saisir tout produit et dont les normes ne seraient pas conformes aux caractéristiques édictées.
Oui, mais attendez, Gilbert, à vous entendre, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il n'y a aucun contrôle réalisé par les douanes lorsque des produits consommables, là on parle de boissons, mais je pense aussi à des produits alimentaires, lorsque ces produits-là franchissent la frontière de votre pays?
Bon, alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun contrôle, mais comme vous le savez, dans tous les pays d'Afrique, les contrôles douaniers sont entre griffes, pas très bien faits. ce qui permet à certains douaniers de s'enrichir au détriment de la santé du consommateur. Donc, c'est compte tenu de toutes ces insuffisances que nous avons conçues, la Commission nationale de lutte contre la non-conformité.
D'accord. Donc, vous appelez de vos voeux la mise en place de cette commission nationale qui existe sur le papier, vous le disiez, mais maintenant, vous attendez que les autorités passent à l'acte. Merci beaucoup, Gilbert Yin Sonda, de nous avoir appelé, de nous avoir interpellé donc, sur cette affaire des soldats, périmés. Rémi, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bonjour, bienvenue sur l'antenne. Vous êtes à N'Djamena, au Tchad, le Tchad où les députés ont adopté la prolongation de leur mandat en attendant la mise en place de la biométrie. Sans biométrie, il n'est pas possible d'organiser des élections législatives. Et comme la biométrie n'est pas prête, eh bien les élections qui devaient se tenir dans quelques mois sont tout simplement reportées. Vous vous dites que c'est un scandale, Rémi. Il n'y a aucune raison que les députés prolongent eux-mêmes leur mandat.
Il n'y a aucune raison, M. Wang. Les députés sont élus pour un mandat de 4 ans et après 4 ans, ils doivent repartir à la base, c'est-à-dire consulter les électeurs. Et si je m'oppose à cela, c'est pour éviter le vide juridique, Wang.
Okay. Oui, mais enfin, en même temps, justement, les députés ont adopté la prolongation de leur mandat pour éviter justement le vide juridique. C'est-à-dire que, à partir du 20 juin, qui est donc la date où théoriquement il y aurait dû avoir des élections, il y aura toujours une Assemblée nationale puisque les députés resteront en place.
Je propose et je soutiens l'idée de mettre sur pied une Assemblée de transition qui jouera ce rôle. Et quand il y aura la formation d'une assemblée de transition, on n'en parlera pas d'un vide juridique.
D'accord, c'est vrai qu'il y avait trois possibilités. Hein. Soit mettre en place un parlement de transition comme vous le souhaitez, Rémi, soit autoriser le président à légiférer par ordonnance, soit à prolonger le mandat des députés. C'est ce qui a été décidé, donc pour vous c'est la pire des solutions. Rémi, merci d'avoir appelé de N'Djamena, c'est la libre antenne, vous le savez, il nous reste 10 minutes, on peut encore aborder tous les sujets qui vous intéressent dans l'actualité. On a reçu une réaction sur la page Facebook de l'émission de Noé. Il est à Freetown, en Sierra Leone. Bonjour Noé.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous écouter sur place à Freetown. Le pays, on en a beaucoup parlé sur notre antenne, est frappé par l'épidémie d'Ebola. Et après 7 mois de fermeture, eh bien, les écoles vont de nouveau pouvoir accueillir les élèves. Une date a été fixée, c'est celle du 30 mars. Donc dans 15 jours, les enfants vont pouvoir retourner à l'école. Mais vous vous dites, attention, c'est trop tôt.
Oui, alors c'est trop tôt de réouvrir des écoles ici parce que si nous voyons que cette maladie a eu du mal à être acceptée ici, c'est parce qu'il y avait l'ignorance. Mais aussi, réouvrir des écoles que certaines écoles ont été utilisées comme centre de traitement à virus Ebola. Jusqu'à présent, ces écoles ne sont pas désinfectées. Alors le gouvernement avait aussi promis que, alors ils auraient formé des enseignants pour la prise en charge des élèves éventuellement malades. Alors aussi, fournir des écoles, des thermomètres, fournir des écoles avec du savon. Mais jusqu'à présent, cela n'est pas fait ici, au moment où je vous parle.
Ah, c'est ce que vous dites, mais en même temps, le ministre de l'Éducation lui dit que il y aura, à partir du 30 mars, des thermomètres disponibles dans toutes les écoles et que des centres d'isolement seront installés dans les écoles qui seront désinfectées. En même temps, Noé, il reste encore 15 jours. Il est possible d'organiser une distribution de thermomètres dans les 2 prochaines semaines.
Oui, il est possible d'organiser cela, mais il reste maintenant 15 jours. Et puis, le virus Ebola est jusqu'à présent actif, parce que si vous voyez que le vice-président même, Sam Soumana, a été mis en quarantaine, c'est parce que jusqu'à présent, le virus est actif.
C'est vrai que le vice-président de votre pays s'est placé en quarantaine pendant 21 jours après le décès dû au virus Ebola de l'un de ses gardes du corps. Donc c'est effectivement on peut dire que l'épidémie n'est pas encore endiguée. Elle a fait plus de 3300 morts sur place. Donc vous êtes inquiet, Noé. Vous avez des enfants ou pas, Noé?
Oui, j'ai des enfants qui vont à l'école. Mais il y a aussi cette fameuse enveloppe que le Fonds monétaire international décide d'octroyer aux écoles ici pour la réouverture prochaine. Mais je pense qu'ils auraient été mieux de construire des infrastructures sanitaires, de construire des infrastructures scolaires, au lieu d'octroyer cette fameuse fonds de 3 millions d'euros à la Sierra Leone pour les réouverture prochaine. Je pense que ça, c'est trop dit.
Bon. Votre colère, le coup de gueule de Noé à Freetown, merci de nous avoir appelés. Kevin, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour aux militants du FPI, bonjour la Côte d'Ivoire.
Ah bah au moins vous avez le mérite déjà de planter le décor, vous êtes membre, enfin en tout cas militant du FPI, on va parler de la Côte d'Ivoire et du FPI puisque le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo se déchire. On a d'un côté les partisans d'une présidence du parti par Laurent Gbagbo, qui est en ce moment en prison à La Haye, à la Cour pénale internationale, et de l'autre, eh bien on a les pros Affine Guessant. Vous avez choisi votre camp, Kevin?
Ben, bien sûr que oui, le camp, c'est celui de Laurent Gbagbo. Voyez-vous, M. Affine Guessant, à un moment donné de sa gouvernance, est devenu irrespectueux de, vis-à-vis des textes du parti. Elle me dit que c'est immoral de sa part, parce que Affine Guessant a osé douter de la signature du président Laurent Gbagbo. Affine Guessant a instauré le Fonds populaire ivoirien en justice. Ce sont des actes graves, à mon sens. Et donc, si aujourd'hui, le comité central
est la débarque... Kevin, oulala, Kevin, il y a des coupures sur le réseau, dommage, on aura l'occasion de vous retrouver, pourquoi pas la semaine prochaine, dans une autre libre antenne. On aura certainement l'occasion de parler de ces divisions au sein du FPI, d'autant que demain, théoriquement, il y a un congrès qui est prévu, un comité central, voilà, je cherchais le mot exact du FPI. On va parler du cinéma, tiens, c'est bien, on va consacrer les 5 dernières minutes au FESPACO qui se déroule en ce moment, à Ouagadougou, c'est d'ailleurs demain que le festival livrera son palmarès. Bonjour Freddy.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes un passionné du cinéma africain, vous?
Absolument.
On vous écoute.
Oui, voilà. Donc, je voulais revenir sur le débat qui a eu lieu hier pour dire qu'il y a des possibilités de promouvoir le cinéma africain en participant à des événements qui ont lieu à l'international, parce que l'Afrique a des limites de budget. C'est un continent, comme on le sait, qui est pauvre, mais malheureusement qui souffre par un manque d'ouverture à l'international. Les acteurs du cinéma, non seulement devraient participer au FESPACO, ce qui est déjà une très très bonne chose,
mais aussi
devraient participer à des événements où ils vont rencontrer d'autres experts, d'autres professionnels, d'autres acteurs et même des investisseurs qui s'intéressent au cinéma africain et dont malheureusement parfois on ne connaît pas les lacunes, on n'a pas l'occasion de se rencontrer, de discuter. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'exhorte vivement les acteurs du cinéma africain à participer à des festivals à l'international pour leur permettre de rencontrer des professionnels qui ont parfois 400 films dans leur actif, qui ont une expertise incontestable dans le monde. Et rendez-vous compte, dès lors que vous rencontrez quelqu'un qui a une certaine expertise, vous gagnez plusieurs années que cet expert vous fait partager.
En même temps, le nerf de la guerre, vous le savez, ce sont les moyens financiers. Les subventions sont de plus en plus rares. Ensuite, quand on arrive tant bien que mal à financer un film, ensuite, il faut le distribuer. Là, il y a de gros problèmes. Le diffuser, il y a quasiment plus de salles de cinéma sur le continent africain. Donc, c'est compliqué, Freddy.
C'est exactement la raison pour laquelle il faut s'ouvrir à l'international. Parce que si on se contente de la consommation locale, on ne peut pas vendre. Or, à l'international, à l'étranger, aux États-Unis, on peut vendre des films africains. Et non seulement ça, il y a des possibilités simples pour que l'Afrique puisse participer à des rencontres à l'international. Et le fait de permettre aux entreprises de soutenir la participation d'un pays, de ce que j'appelle la mutualisation de la participation, c'est-à-dire que plusieurs entreprises se mettent ensemble pour partager la facture et permettre aux acteurs du cinéma d'un pays d'être représentés. Donc, non seulement les entreprises se retrouvent leur compte parce qu'elles ont une visibilité à l'international, mais en plus, les acteurs qui accompagnent la délégation rencontrent d'autres professionnels.
Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est au secteur privé, aux entreprises privées, de financer le cinéma africain?
Oui, de soutenir l'action des gouvernants, c'est-à-dire, par exemple, du ministère de la Culture,
d'accord,
qui peut accompagner le secteur. secteur privé.
Bien. Freddy,
les mobiliser déjà. Oui.
Merci, on a compris l'essentiel de votre réflexion. En tout cas, je vous remercie, je vous interromps, je suis désolé, on est obligé de rendre l'antenne, on est ponctuel sur l'antenne des RFI. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler l'émission spéciale de demain, Cinéma du Monde, Anne Le Quéré et Sébastien Génor, j'adore, en direct de Ouaga. Elisabeth, ah oui, Elisabeth Le Quéré, excusez-moi Elisabeth, vous qui m'écoutez peut-être en ce moment, j'ai mis Anne sur ma petite fiche. Elisabeth Le Quéré, Sébastien Génor, donc demain pour une émission spéciale en direct de Ouaga.